Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.
Même activité fiévreuse à la Bourse de Paris.
La course économique, c'est comme les courses de cyclistes, c'est-à-dire qu'il y a des étapes.
Le Japon n'est officiellement plus en récession.
La production industrielle a progressé.
Premier trimestre est mesuré à 0,6%.
L'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, c'est 60% des réserves mondiales de pétrole de la planète.
Bonjour et bienvenue à l'antenne de Radio Spoutnik pour une nouvelle édition des chroniques de Jacques Sapir. L'édition de cette semaine s'intitule « Dette publique grecque, le cauchemar a-t-il une fin ?» Élu sur un programme de remise en cause de l'austérité budgétaire, le gouvernement grec de coalition, emmené par Syriza, parti majoritaire au Parlement, applique aujourd'hui un programme de privatisation et de restriction, de coupe dans tous les budgets sociaux à la demande de ses créanciers. L'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances de la zone euro et qui est une organisation largement informelle, organisation qui représente aussi les intérêts des créanciers européens, s'est félicité de l'accord sur une nouvelle tranche d'aide, accord qui a été conclu le 25 mai dernier avec Athènes, sans pourtant promettre aucun allègement de la dette publique. Combien de temps le sacrifice de l'État grec et de la population grecque, il ne faut pas l'oublier, peut-il encore durer? Que va-t-on faire de cette dette qui, au demeurant, ne fait qu'augmenter aujourd'hui? Je vous livre aujourd'hui mon point de vue sur ce sujet, qui sera ensuite confronté aux analyses de l'économiste Sébastien Vimot et Madame Eleni Ferlet, responsable des relations avec la Grèce au Parti de Gauche. Attention au démarrage imminent de la chronique et en vous souhaitant une bonne écoute sur Spoutnik France. Que faire donc de la dette grecque? C'est le problème, c'est la question qui hante aujourd'hui les jours et les nuits de tous les dirigeants européens, de tous les dirigeants de la zone euro. Quel est le problème? On le sait, la Grèce avait une dette publique importante depuis le début des années 2000. Le premier piège, c'est que quand vous mettez en place une politique de contraction budgétaire extrêmement importante, eh bien cette politique est là, et cela a été démontré par toute une série d'études, comme en particulier l'étude faite par l'ancien responsable économique du Fonds monétaire international, M. Olivier Blanchard, avec son collègue David Lee. On montre qu'une réduction dans les dépenses publiques a pour effet immédiat d'entraîner une réduction plus que proportionnelle dans le revenu national, dans le produit intérieur brut. Ce qui veut dire que même si la dette n'augmente pas, comme vous avez une baisse du produit intérieur brut, eh bien évidemment, le rapport entre la dette et le produit intérieur brut va continuer de monter. Et ça, c'est évidemment le premier piège. Et puis le deuxième piège, c'est que comme nous avons un niveau de dette sur PIB relativement important, eh bien évidemment, tous les banquiers disent « ça va poser un problème » et ils commencent à exiger des taux d'intérêt de plus en plus importants aux pays considérés, à la Grèce. Et là, on voit que c'est bien la hausse des taux pour pouvoir placer les emprunts qui d'ailleurs très souvent ne servaient qu'à faire rouler, non pas à, ne correspondaient pas à de nouveaux emprunts, mais qui correspondaient uniquement au roulement des emprunts précédents, eh bien cela a fait monter de très loin le coût général de la dette et a conduit évidemment à un nouvel endettement. Il est d'ailleurs extrêmement intéressant de constater aujourd'hui que si la Grèce n'avait pas à payer des intérêts sur sa dette, elle serait en équilibre budgétaire.
Je suis Eric Toussaint, porte-parole du CRDTM international. Le CRDTM international signifie Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. C'est un réseau mondial présent dans plus de 30 pays sur 4 continents, Afrique, Asie, Europe, Amérique latine et Caraïbes, qui, comme son nom l'indique, agit sous différentes formes, en faveur de l'abolition des dettes illégitimes. J'ai coordonné en 2015, à la demande de la présidente du Parlement grec de l'époque, la commission instituée dans le cadre du Parlement grec en avril 2015 pour établir la vérité sur la dette grecque. Et cette commission a rendu ses travaux les 17 et 18 juin 2015. Et vous pouvez trouver ces travaux dans leur version française sur le site du CRDTM. www.crdtm.org Vous pouvez aussi le trouver sous la forme d'un livre édité chez l'éditeur Les Liens qui Libèrent.
Les relations se sont fortement dégradées à partir de début juillet, c'est-à-dire la décision du gouvernement d'Alexis Tsipras de capituler face aux créanciers et représentés par la Commission européenne, ce qui a amené d'ailleurs le nouveau président du Parlement grec, Voutsis, a annoncé la dissolution de la Commission pour la vérité sur la dette publique grecque. Il a annoncé cela début novembre 2016, un mois après avoir remplacé la présidente du Parlement grec qui avait créé la commission en question le 4 avril 2015. Et il faut être bien conscient que les nouvelles mesures prises depuis janvier 2016 constituent des attaques qui renforcent très fortement. C'est-à-dire que une série de droits économiques et sociaux qui, malgré 5 ans de mémorandum, avaient été protégés, une partie de ces droits avaient été protégés, sont l'objet maintenant de nouvelles mesures, notamment la question de la possibilité de licenciement collectif et d'imposer des contractations du recours au contrat strictement individuel.
Bienvenue aux auditrices et aux auditeurs qui nous rejoignent. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. Après la chronique, nous passons au débat avec mes invités du jour. Sébastien Villemot, bonjour. Vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Bienvenue dans notre émission. Eleni Ferlet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des relations avec la Grèce au sein de votre formation. Vous êtes avec nous au téléphone et je rappelle aux auditrices et aux auditeurs qui suivent que ce débat est consacré à l'accord sur l'octroi d'une nouvelle tranche d'aide qui a été conclu entre Athènes et les ministres des Finances de la zone euro le 25 mai dernier. Un accord qui mise entièrement sur la réduction des dépenses de l'État grec et ne prévoit aucun allègement de sa dette dans un proche avenir. Alors, Eleni Ferlet, je voudrais commencer par vous poser une première question. Le programme d'austérité a-t-il une limite, un point d'épuisement à court ou moyen terme?
Moi, je pense qu'il n'y a aucune limite à la cure de rigueur budgétaire imposée depuis des années par l'Europe en Grèce, parce que, en fait, ici, il s'agit d'appliquer une politique néolibérale, donc avec toutes les conséquences qui s'en suivent, hein, c'est-à-dire une augmentation, bien entendu, de la dette de la Grèce, hein, puisque, comme vous le savez toutes et tous, une partie de la dette grecque est jugée, je dirais, illégitime et inadmissible, due, bien entendu, par les taux usuraires imposés par la BCE et l'exigence européenne. Donc tout cela pour m'amener à dire qu'en fait, il y a une confrontation de politiques, donc la politique néolibérale, la politique du capitalisme financier. Dès que l'on rentre dans ces applications de politique austéritaire, évidemment, il n'y a pas de fin. Donc il suffit de remettre les choses à l'endroit. Quand je dis remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire que la BCE doit redevenir une institution publique nationale à prêter aux États à des taux d'intérêt bas et non pas à prêter aux banques privées à des taux d'intérêt bas qui ensuite vont faire payer les États. Et donc, dans ce sens-là, je dirais qu'il n'y a pas de fin. Et enfin, les dernières mesures d'austérité qui ont été appliquées en Grèce sont absolument ahurissante. Et cela ne va pas arranger la situation économique du pays. Parce que, comme vous le savez, il y a eu quand même un alourdissement des taxes indirectes, donc ce qui fait encore du mal à la Grèce. Donc il y a eu la création de taxes de résidence auprès des hôtelleries. Il y a eu la création d'un nouveau fonds de privatisation pour accélérer les cessions d'actifs publics sur la demande de l'Allemagne. Il y a eu également la libéralisation de la vente des prêts bancaires, c'est ce qui fait encore beaucoup plus mal au pays qu'auparavant, puisque nous avions la dette avant la Troïka et aujourd'hui la dette après la Troïka. Et il faut savoir que cette dette-là, elle est égale à environ 182,8% du PIB et que l'Allemagne refuse d'alléger. Hein. Faut ne pas le perdre de vue.
Oui, tout à fait, tout à fait. On connaît cette logique. Quand même, il y a un problème qui se pose. Et avant de demander à Sébastien Villemot son commentaire, je voudrais vous poser la question. On a déjà une expérience historique de ces programmes d'hyper-austérité. Et si vous voulez, moi, quand je regarde la Grèce, j'y suis allé à de nombreuses reprises ces dernières années, je suis très frappé par la relative similitude de la situation avec la situation de la Russie dans les années 1990. Là aussi, on avait un programme d'hyper-austérité qui était imposé, d'ailleurs, non pas tant par le Fonds monétaire international, mais plutôt par les équipes liées aux États-Unis, par exemple l'équipe de Jeffrey Sachs, qui opérait auprès du ministère des Finances de la Russie. Or, à un moment donné, à partir de 1995-1996, on a vu que ces programmes devenaient massivement contre-productifs. C'est-à-dire que massivement, la chute de production qui était issue de l'application de ces programmes détruisait complètement l'effet entre guillemets positif, c'est-à-dire l'effet de récupération un petit peu d'un excédent budgétaire qui était prévu dans ces programmes. Donc la question c'est, est-ce que vous pensez que l'on a atteint ce stade ou est-ce que vous pensez que malheureusement il va falloir continuer encore pendant plusieurs mois, voire peut-être une année ou deux, avant que l'on atteigne ce stade ?
Alors très honnêtement, je ne veux pas rentrer dans la technicité de ce sujet, mais je suis plutôt sur la première position. Enfin, pour moi, c'est et pour les Grecs hein, et l'État, on ne peut pas continuer comme ça.
Sébastien Villemot, votre commentaire.
C'est vrai que ce qui est frappant dans le programme qui vient d'être annoncé, c'est que c'est vraiment la continuation d'une politique qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette même logique d'austérité. On a vu la destruction économique en Grèce, qui est une crise sans précédent en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec tout un corollaire en termes sanitaires, de pauvreté, même de suicide. Et le plus absurde dans tout ça, c'est que cette politique ne fonctionne même pas dans son objectif officiellement affiché, qui est de faire baisser le ratio dette sur PIB. À savoir qu'aujourd'hui, l'endettement de la Grèce est proportionnellement à son PIB plus élevé qu'il ne l'était au début du programme. Donc voilà, ce programme a complètement échoué. Et pourtant, pour le moment, on n'observe pas de remise en cause de la part des institutions européennes. Et d'ailleurs, elles ont montré qu'elles étaient prêtes à tout pour empêcher une remise en cause de cette logique, puisque, comme on l'a vu avec l'épisode de l'été dernier en Grèce, elles sont allées jusqu'à asphyxier financièrement et monétairement un gouvernement qui avait été légitimement élu. Donc, pour le moment, effectivement, on ne voit pas d'ouverture du côté des institutions européennes. On voit mal ce qui, à court terme, pourrait pousser à une remise en cause. Et donc, à mon avis, la seule chose qui pourrait faire changer les choses à instant précis, ce serait une nouvelle crise qui pourrait venir soit d'un choc politique ou d'un choc économique en Grèce.
Moi, j'ai une question qui me vient immédiatement à l'esprit. C'est que cette politique, si vous voulez, cette espèce d'entêtement meurtrier de la part des créanciers, est-ce qu'il est, en fin de compte, économique ou politique ? Qu'est-ce que l'on cherche ? Est-ce que l'on cherche à, soi-disant, rétablir la solvabilité de la Grèce ? Bon, nous savons bien que ce n'est pas le cas, mais disons, on pourrait dire oui, mais c'est bien l'objectif final, même si nous employons de mauvaises méthodes, c'est bien l'objectif final que nous avons. Ou bien, est-ce que ce n'est pas un objectif politique ? Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de briser complètement la résistance politique et sociale d'un peuple ? Hélène Ferlet ?
Oui, écoutez, moi je dirais que c'est une question un petit peu piège, hein, telle que je l'entends, mais les deux réponses me semblent possibles. Il y a effectivement non seulement un choix, bien sûr, politique pour briser cette résistance, comme vous l'avez très bien dit. Pourquoi ? Parce que la Grèce a énormément souffert, a eu une histoire quand même très très dure et a connu des moments tellement bas que c'était aussi un des piliers au niveau politique à voir le jour d'une gauche radicale et qui malheureusement, n'a pas échoué face à l'agressivité de l'Union européenne. Mais également, n'oublions pas que la Grèce est un pays laboratoire. Hein, et donc toutes les politiques économiques qui sont choisies par l'Europe en Grèce ne font que démontrer le capitalisme, voilà, qui est le rouleau compresseur et comment, quels sont les résultats qui vont en sortir. Donc les deux réponses, aussi bien le choix de la politique économique et le choix politique pour casser la résistance, est vrai pour moi.
Sébastien Villemot, est-ce qu'à votre avis, ces programmes d'austérité sont d'origine économique ou politique ?
Je pense qu'il y a certaines personnes, notamment au sein de la Commission européenne, qui croient en la logique économique de ces programmes, même si on voit bien qu'avec le temps, ça devient de plus en plus difficile à y croire, à mesure que...
Par exemple, à votre avis, est-ce que Chaublet y croit ?
À mon avis, en tous les cas, il est clair que la dimension politique est essentielle dans ce qu'on observe. À savoir que ce que démontre la crise grecque, c'est que les politiques qui ont été codifiées dans les traités européens, in fine, ne fonctionnent pas. Et donc, admettre une faille dans cette logique et admettre l'échec des politiques en Grèce, ce serait in fine ouvrir une crise au sein des institutions européennes, ce que actuellement les gouvernements européens ne peuvent pas se permettre.
Eleni Ferlé, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite de passer une bonne fin d'émission. À très bientôt.
Merci beaucoup. Nous reprenons donc avec Sébastien Villemot de l'OFCE. Et pour continuer la discussion, Fonds monétaire international, on a pu l'observer au cours des négociations qui ont mené à l'accord du 25 mai, est désormais largement favorable à un allègement de la dette grecque. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement de Tsipras n'essaie-t-il pas de faire équipe avec le Fonds monétaire international contre l'Eurogroupe ? Et au-delà, est-ce qu'il pourrait le faire ? Est-ce qu'il pourrait avoir ce type de stratégie ?
Ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que ce changement de position du FMI, en quelque sorte, il ne vient pas d'une quelconque philanthropie ou une volonté d'aider la Grèce. En réalité, ce qu'on voit, ni même d'ailleurs d'une véritable remise en question profonde des politiques que le FMI a appliquées. Ce qu'on voit en fait quand on regarde ce que dit le FMI, c'est que s'il considère qu'aujourd'hui la dette grecque est insoutenable, c'est parce que la Grèce n'a pas été capable d'appliquer assez vite les réformes libérales qu'il avait proposées. Donc c'est pas une réelle remise en cause du consensus sur libéral et de l'austérité, c'est simplement le constat que politiquement la Grèce n'a pas appliqué les réformes qu'il avait proposées. Le FMI en fait, il est dans une espèce de logique de banquier, c'est-à-dire que il ne prête que s'il ne pense pouvoir être remboursé. Là, il constate que dans les conditions actuelles, il ne sera pas remboursé et donc il refuse de prêter tant que la dette n'a pas été allégée. Donc il y a un certain consensus malgré tout sur les politiques à mener entre Européens et FMI, mais les contraintes politiques entre les deux institutions sont très différentes. Le FMI doit rendre des comptes aux États, notamment émergents, qui ne veulent pas qu'on traite différemment un pays européen, tandis que les Européens, eux, pour le moment, sont principalement préoccupés par la volonté de faire durer le plus longtemps possible la fiction de la soutenabilité de la dette. Donc en quelque sorte, ils veulent gagner du temps, ils ne sont pas prêts à payer le coût politique d'une annulation de dette. Donc de ce point de vue-là, le Tsipras n'a pas souhaité demander le soutien du FMI parce qu'il était conscient que le FMI, en vérité, demande des politiques d'austérité encore plus dures si jamais la dette n'est pas annulée. Et donc il s'est quelque part enferré dans une logique où il était plutôt du côté des Européens contre le FMI, et in fine, il a quand même perdu sur les deux tableaux. C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qui s'est produit, c'est qu'in fine, il n'y a pas d'allègement de la dette, contrairement à ce qui a été d'ailleurs annoncé un peu à grand cri suite au dernier Eurogroupe. En réalité, la dette grecque, pour l'instant, il n'y a pas de perspective concrète d'annulation de dette. Et en même temps, les politiques d'austérité continuent.
Est-ce qu'il peut y avoir, d'une certaine manière, une possibilité de sortie de cette situation pour la Grèce ?
À l'heure actuelle, on voit mal comment le gouvernement de Tsipras va arriver à s'en sortir. Parce que il a tellement fait de concessions, il s'est enferré dans une logique de laquelle on voit mal comment il pourrait s'extraire. Donc je pense qu'à court terme, c'est pas du gouvernement de Tsipras que viendra une véritable rupture. Après, ce qui me semble également clair, c'est que la situation n'est pas tenable. C'est-à-dire que rien n'a été réglé dans la crise grecque. Aussi bien une sortie de la zone euro potentielle qu'un défaut sur la dette sont toujours des choses qui sont sur la table, qui ne sont que remises à plus tard. Et donc à un moment ou à un autre, on observera une crise. Quelle sera la nature exacte de cette crise, je ne sais pas. Et ça viendra probablement d'un choc politique interne à la Grèce où à un moment, le degré de tolérance à ces politiques deviendra si faible qu'on verra un autre bouleversement politique ou un choc économique qui pourrait remettre en question le scénario actuel.
Alors justement, si on parle de cette idée d'un choc économique ou d'un choc politico-économique, bien, je reprends ma comparaison avec la Russie. Nous savions tous, nous qui travaillions à l'époque sur la transition en Russie, que la situation était sans issue dans les années 95-96, que ça ne pouvait pas continuer ainsi. Néanmoins, il a fallu une spéculation extrêmement brutale qui s'est développée de la fin 97 et durant tout le printemps 98 pour emporter finalement à la fois les finances de la Russie, mais aussi politiquement le gouvernement libéral de l'époque, et obliger ce gouvernement à décréter à la fois le flottement du rouble, ce qui a abouti à une très forte dépréciation, les vacances bancaires et le défaut sur la dette. Et c'est à la suite de cela, en réalité, que ce gouvernement est tombé et qu'il a été remplacé par une forme de gouvernement d'union nationale autour de Yevgeny Primakov. Quel pourrait être, d'après vous, l'événement économique ou politico-économique qui pourrait avoir le même effet sur la Grèce?
C'est une question difficile. C'est sûr que on a toujours du mal à prédire les événements qui peuvent intervenir, notamment en matière financière. C'est certain qu'une nouvelle crise financière pourrait, par exemple, déclencher une nouvelle forme de spéculation, même si aujourd'hui la dette grecque, comme on le sait, elle est majoritairement détenue en fait par les États, donc elle n'est pas tant que ça vulnérable à la spéculation financière. Néanmoins, on peut imaginer aussi un scénario d'un autre bouleversement politique dans un des pays du centre de l'Union européenne, même si ce n'est pas non plus pour le moment le scénario le plus vraisemblable. À mon avis, ça viendra plutôt quand même d'un choc politique interne, c'est-à-dire que les Grecs à un moment se diront stop. On a vu quand même que le non au référendum en juillet 2015 était quand même la preuve que le degré de résistance du peuple grec face à ses politiques était très élevé. Donc on a vu depuis, après le résultat de ce référendum, au moment où Tsipras a finalement choisi d'appliquer des politiques qui étaient en quelque sorte l'inverse du résultat du référendum, depuis on a vu un certain reflux de cette combativité, mais d'une façon ou d'une autre, elle ressurgira.
Écoutez, Sébastien Vimot, je vous remercie. Je remercie aussi Eleni Ferlet qui a été avec nous par téléphone dans cette émission. Et restez à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir sur cette antenne. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. L'édition de cette semaine s'intitule « Dette publique grecque, le cauchemar a-t-il une fin ?» Bruno Tinel fait partie de ces économistes qui pensent que la réduction de la dette ne doit pas borner l'horizon des pensables et que d'autres politiques économiques existent. Il nous a rejoint au téléphone. Bonjour Bruno. Bruno, vous êtes l'auteur du livre « Dette publique, sortir du catastrophisme » qui a été publié récemment chez Raison d'agir. Pouvez-vous nous présenter brièvement cet ouvrage et nous dire dans quelle mesure il s'applique à la situation grecque ?
Oui, alors dans ce livre, j'explique que les problèmes d'endettement public ne sont pas des problèmes de gestion publique en tant que tel, mais sont des problèmes qui sont liés à la dynamique macroéconomique, donc à la dynamique d'ensemble de l'économie, et donc au choix de politiques économiques qui sont effectuées. Sur le court terme, l'évolution de la dette publique dépend de la position de l'économie dans le cycle. Si on est dans une phase d'accélération de l'activité économique, eh bien ça signifie que on a plutôt un essor de l'activité privée, de l'activité des entreprises, et donc celles-ci sont davantage en situation d'investir, et les ménages eux aussi sont en situation de consommer davantage, ce qui se traduit par une expansion de la dette privée. Et donc dans cette situation-là, en phase d'expansion, on a davantage de recettes fiscales, et donc les déficits publics diminuent et la dette publique elle aussi tend à diminuer parce qu'il y a plus d'activité, donc le ratio dette sur PIB diminue. Et il se passe la chose inverse en phase de récession, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un ralentissement économique ou quand il y a une crise économique, eh bien, les agents privés cherchent plutôt à se désendetter. Et du coup, bien sûr, les recettes fiscales font défaut. Et à ce moment-là, on a un essor de la dette publique. Donc, on a un phénomène, en fait, de vase communicant entre dette privée et dette publique, qui fait que, finalement, la dette publique elle sert, sur le plan macroéconomique, à amortir les chocs macroéconomiques. Et donc, la dette publique est d'abord et avant tout, en quelque sorte, le révélateur de la dynamique macroéconomique. Concernant la Grèce, effectivement, le problème de la Grèce, c'est que les impôts ont été augmentés de manière très importante, en particulier des impôts très antisociaux et qui n'ont pas grand-chose à voir avec la progressivité. Donc, effectivement, donc dans le cas de la Grèce, il y aurait tout autre chose à faire, sans doute, justement, baisser plutôt les impôts qui sont payés par les ménages à revenus modestes et moyens, donc baisser les impôts de type TVA, vérifier que le système de prélèvement sur les revenus, lui, par contre, fasse l'objet d'une progressivité pour que, en tendance, eh bien, la charge fiscale se reporte vers les ménages à revenus aisés, qui sont aussi les ménages qui ont le taux d'épargne le plus élevé. Et du coup, de ce point de vue-là, ensuite, les dépenses publiques orientée vers la préparation du long terme, donc liée donc à l'investissement, qui ont un effet très important sur l'activité économique, eh bien seront encore plus efficaces avec un tel système fiscal révisé. Mais donc pour la Grèce, il faut une restructuration, deux, un système fiscal qui soit le moins injuste possible et donc qui aille plutôt dans le sens inverse de ce à quoi on a assisté ces dernières années, et trois, un vaste programme de relance budgétaire très très classique.
Merci Bruno Tinel pour ces précieux éclairages.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Vous aussi, au revoir.
C'était Bruno Tinel au téléphone avec Jacques Sapir et nous continuons notre programme. Vous êtes à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir. Notre édition de cette semaine s'intitule « Dette publique grecque, le cauchemar a-t-il une fin ?» Si les créanciers de l'Eurogroupe continuent leur politique de saigner à blanc de la Grèce, les Grecs devront, un jour ou l'autre, reprendre leur destin en main. L'alternative, en 2014 et au début de 2015, c'était Syriza. Il convient probablement, désormais, d'en trouver une autre. Je remercie donc Clément Détry, à la rédaction, Mourad Azri, au montage et à l'habillage, et Marc-Laurent Turpin, à la réalisation. Prochaine émission, mardi, 18h30. Restez à l'écoute des chroniques de Jacques Sapir.
Radio Spoutnik. Nous dévoilons ce dont les autres ne parlent pas.